d'études politiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom de mon institut et de la campagne mondiale. Comme nous l'avons dit, la troisième version est le seul document représentatif des négociations entre États, le seul document légitime devant servir de base pour cette huitième session. Je ferai allusion à cette troisième version et à l'article 14. Comme vous le savez, l'article 14 est un des piliers fondamentaux de notre processus, conformément à la résolution 26-9, pour réglementer les activités des STN, conformément au droit international. Nous le soulignons car, pour garantir l'efficacité du traité, il est important d'en réaffirmer la primauté par rapport à d'autres engagements adoptés par les États, et en particulier face aux engagements pris en matière de commerce et d'investissement. Nous rappelons que le devoir des États de respecter, protéger et garantir les droits de l'homme suppose la reconnaissance de la primauté de ces droits. Les interprétations de certains États ne sont pas admissibles, par exemple en ce qui concerne la protection des investissements étrangers. C'est une question qui a été soulignée dans le document d'éléments en 2017, dans lequel nous avons rappelé que le traité rappellerait la primauté du droit international, du droit humanitaire face aux accords de commerce et d'investissement et établirait des dispositions dans ce sens, notamment l'article 14.5. La réalité nous montre que loin d'être nécessaire, c'est même urgent de rappeler la primauté de cet instrument. Les revendications des États ont été rappelées. Nous avons reçu plusieurs demandes de revendications de STNT par rapport aux États. Des indemnisations à hauteur de plusieurs milliards ont été fournies, portant atteinte à la possibilité d'un État de faire respecter et protéger les droits humains. Des arrêts ont également été prononcés dans les juridictions nationales. Autant de preuves qui justifient de rappeler la primauté de ces instruments internationaux. Je rappelle l'affaire Chevron qui a été condamnée en 2011. À 9 milliards de dollars pour réparation après la catastrophe environnementale et humaine provoquée par ses activités pendant 40 ans en Amazonie. Plutôt que de respecter ces arrêts, Chevron a passé plusieurs années pour essayer d'obtenir une annulation de ces arrêts. Chevron a fait appel à plusieurs reprises en demandant notamment à l'État de l'Équateur d'annuler l'arrêt. Il s'agit là d'une subversion de l'État de droit et de la division des pouvoirs. Cette possibilité ne devrait pas exister et n'existerait pas si, dans le traité tel que celui que nous négocions, l'on fixait la primauté du droit international par rapport aux accords de commerce et d'investissement. Et nous souhaitons que cela figure très clairement dans l'article 14.5. Certains États l'ont rappelé, la Palestine notamment. La campagne mondiale propose donc la formulation suivante du 14.5. Tous les accords bilatéraux, multilatéraux existants, y compris les accords régionaux et sous-régionaux, en matière du contenu de cet instrument, y compris les accords de commerce et d'investissement, seront révisés et mis en œuvre de façon à ne pas limiter la possibilité d'exécuter les dispositions établies dans ce traité et ainsi de suite. La mission américaine, dans son intervention, avait indiqué que cet article ne serait pas compatible au droit international puisque les parties pourraient arriver à une nouvelle interprétation. Nous considérons qu'un traité de commerce et d'investissement ne peut pas s'opposer à un traité ratifié de façon postérieure. Et si tel était le cas, un État devrait pouvoir le dénoncer en ce qui concerne donc la hiérarchie des règles. Et puis, deuxième partie de l'article 14.5, tous les accords de commerce et d'investissement à négocier devront tenir compte de cette réalité.